Ouais, il marche.
De retour sur la rage, donc après cette petite pause musicale, apparemment, en plus, elle a été à moitié doublée.
C'est ça. On a eu droit à deux fois Sandal,
Non, mais
enfin,
c'est de
une
la
fois et
folie,
demie.
c'est de la folie aujourd'hui.
C'est ça.
On a,
C'est
en
pas
fait,
notre jour.
c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le PC a décidé de lui-même bah, d'arrêter la chanson, en fait. Hein. Donc, nous, on a décidé de la
Nous, ce qu'on
remettre.
aime bien. Mais le PC a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui.
Voilà, non mais bon, c'est pas grave. Mais donc du coup, bah, Pierrick est de retour en fait avec nous, puisqu'il a décidé que ça y est, ça
Je pouvais pas
suffisait
faire
là,
mieux,
hein,
surtout.
voilà.
Donc
Bon
on
après,
en est désolé, le son sera meilleur sur le podcast www.la-rage.fr,
on va
on
essayer en tout
espère.
cas, ouais. Après, bon, en tout cas, j'espère que pour vous, c'est audible et que vous avez pu découvrir donc l'Inde quand même en première partie de l'émission, que vous avez supporté ce petit problème auditif. En tout cas, maintenant, on passe donc à Chypre. Donc Chypre, comme je disais, qui est plus près de l'Inde. D'ailleurs, l'Inde, ça, on n'a pas dit 50 kilomètres. Ah, tout de même.
Pas la porte à côté.
Ouais, c'est tout de même, oui. Donc 8000 kilomètres.
Avec un décalage horaire de 4h30 ou 5h30 en fonction du fait
Oui,
qu'on est
c'est pas
en hiver
mal.
ou en été,
C'est pas
donc
mal
parce qu'on
en
change
effet.
d'heure.
Et alors, du coup, Chypre, on est plus près quand même.
Chypre, c'est plus près, c'est à 3500, 4000 kilomètres à peu près, 4h15 d'avion.
Moitié moins.
Voilà, 1 heure de décalage.
Ah
Tout le
oui, quand
temps,
même.
été comme hiver, puisqu'ils changent d'heure eux aussi, donc
Quand
au même
même,
moment que nous.
oui.
Donc, 1 heure de décalage.
Et alors, je sais pas si tout le monde, enfin, en tout cas, on va le dire, mais Chypre, donc, fait partie de l'Europe.
Chypre fait partie de l'Europe. L'île entière fait partie de l'Europe.
J'aime bien la
L'Europe,
spécification, l'île
oui,
entière.
l'île
Parce
entière.
que quand
Bon,
on
on
va...
reviendra après
Voilà, quand on
sur
va
la
dérouler
spécification.
la situation, en fait, je dirais, on va dire géopolitique de Chypre, on va se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on va parler d'île entière ou d'île occupée, ou en tout cas c'est enfin, séparée, quoi.
Voilà.
Alors, bah du coup, expliquez-nous un petit peu Chypre. Donc, c'est une île,
Alors,
déjà.
Chypre, c'est une île donc, qui se trouve à l'extrême est de la Méditerranée, qui est au carrefour de trois continents, de l'Asie, enfin l'Europe d'abord, l'Asie et l'Afrique, puisqu'on est à 70 km des côtes turques, tout près de la Syrie, tout près du Liban, tout près
Tout
d'Israël.
près de tous les soucis
Tout
qu'il y a en
près,
ce moment.
voilà, qui en ce moment, mais bon, Chypre n'en souffre pas. C'est la
D'accord.
question qui m'a été posée ce matin, bon, pour l'instant, mais moi, Chypre n'en souffre pas. Donc, elle est au carrefour de ces trois continents. Et on y retrouve sur cette île de la civilisation qui remonte à 11 000 ans environ.
11 000 ans.
11 000 ans, oui.
En même temps, oui, effectivement, si
Oui.
c'est bien positionné, ça a dû
Oui,
faire un moment où
oui.
c'est quand
Et en
même...
fait, Chypre, bon, a été envahie. Alors, je ne vais pas les citer. Je vais les citer les Phéniciens, les Assyriens, les Égyptiens, les Perses, les Romains, les Francs.
Ah
Alors, si, je vais quand même le citer, puisque la famille de Lusignan, qui est originaire de la Vienne, donc Lusignan qui est dans la Vienne, qui a des princes, qui a toujours d'ailleurs des princes, a régné sur Chypre pendant 300 ans. Alors de 1192 à 1489. Et ensuite sont venus des Vénitiens, des Turcs et bien sûr, comme pour l'Inde, les Anglais. Donc qui ont dominé Chypre quand même pendant un certain temps.
Du coup, je suppose qu'on a une culture très diversifiée, en fait.
Ah oui.
Au niveau architecture et
Oui, on
ou également.
retrouve beaucoup d'art byzantin. Il y a énormément de monuments un petit peu de toutes les époques, sachant que, évidemment, certains ont disparu. Et on expliquera, enfin, à certains endroits, et on expliquera un peu plus tard
Tout à
pourquoi.
fait, tout à fait.
Voilà. Et donc, Chypre est indépendant depuis août 1960. Donc, ils ont été, enfin, je dirais tranquilles, pas vraiment, puisque les Turcs ont toujours eu envie d'envahir Chypre. Et c'est ce qu'ils ont fait le 20 juillet 1974. Les Turcs ont profité d'un coup d'État fomenté par les colonels grecs contre le président de la République de l'époque, qui était Monseigneur Makarios.
D'accord.
Donc les Turcs ont profité de ce coup d'État pour envahir le nord de l'île, à peu près 36% de l'île, qui représentait à l'époque 70% des richesses agricoles. Donc c'était très intéressant pour eux, puisqu'ils sont accaparés tous les...
Oui.
Toute la partie agricole, oranger, olivier, etc. Voilà.
La partie économique, en fait.
Voilà. Donc, depuis le 20 juillet 1974, l'île est coupée en deux. Et tous les chypriotes grecs qui étaient dans les villages qui sont occupés maintenant ont été chassés de leur maison et ont dû fuir la partie occupée.
Donc, ouais, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on parle donc d'un pays qui fait partie de l'Europe.
Oui.
On parle d'un pays qui était, on va dire, unifié, hein, où il n'y avait pas vraiment de soucis. Bon, après, il y a eu un coup d'État qui a eu lieu. Et qu'en fin de compte, depuis cette période-là, en fait, ce pays est coupé en deux, et on a une forme d'occupation, en fait, d'un pays autre,
voilà.
La Turquie en l'occurrence.
Voilà.
Et que fait l'Europe, du coup ?
Ah, bonne question. je ne suis pas suffisamment formée en politique. L'Europe, à mon avis, ne fait pas grand-chose, puisque la Turquie souhaite rentrer dans l'Union européenne. Alors, vous avez les pays qui sont pour, les pays qui sont contre, mais a priori, pour l'instant, tant que le problème chypriote n'est pas réglé, beaucoup de pays n'ont pas envie que la Turquie rentre dans l'Europe.
Ça paraît très logique.
Voilà. Et même à notre niveau, à nous, en France, quand il y a eu les élections présidentielles, les dernières, le secrétaire général des Amis de Chypre, au niveau national, a envoyé un courrier aux deux candidats, donc en l'occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je dirais que c'était un peu une réponse de Normand, quoi.
Alors là, c'est moi que vous me perdez quand vous me dites ça.
Ni oui ni non. Ah, pardon, excusez-moi. Non, bah, c'était pas clair, quoi. Ils n'ont pas voulu trop se mouiller.
Ils n'ont pas, ils sont pas vraiment impliqués dans la situation, quoi.
Mais comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, peu de gens connaissent la situation à Chypre.
Mais tout à fait. Moi, j'ai été vraiment étonné. En fait, ça m'a fait penser un peu au principe du mur de Berlin, en fait, comme on en avait parlé la première fois. On est vraiment sur, presque parce que oui, on l'a pas dit, mais je suppose, enfin vous me l'avez déjà dit, on va le dire à l'antenne, que la ligne de séparation, ce ne sont pas uniquement des marguerites qui font le chemin, quoi.
Non, absolument pas. Donc il y a ce qu'ils appellent la buffer zone, la zone tampon, qui est contrôlée par les soldats de l'ONU, pour éviter justement qu'il y ait des affrontements.
Des conflits, oui, tout à fait.
Il n'y en a pas, mais bon. Et nous, on a eu l'occasion d'y aller, vous avez des fils de fer barbelés par endroits, et vous avez un panneau mine, et j'ai posé la question, il y a des mines,
oui, pour éviter de traverser.
Pour éviter de traverser.
Et vas-y.
Enfin, vous disiez, il n'y a pas de combat dans cette zone tampon. On va dire que les Chypriotes n'ont pas les moyens de combattre pour leur territoire, ou pas...
Non, ils n'ont pas... Ça ne servirait à rien, de toute façon, ils n'ont pas envie. Donc eux,
deux puissances qui sont complètement différentes.
Voilà. Mais au départ, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Chypre, vous aviez, avant donc l'invasion des Turcs, vous aviez des Chypriotes grecs, donc de religion orthodoxe, des Chypriotes turcs, de religion musulmane. En gros, il devait y avoir, enfin là actuellement, je crois que le pourcentage de Chypriotes grecs, c'est 77%, pour 10% de Chypriotes turcs, le reste, minorité arménienne, maronite, égyptienne et des résidents étrangers. Mais avant l'invasion, les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs cohabitaient très bien. Ce qui fait que tous les Chypriotes grecs ont été chassés militairement, certains, puisqu'il y a eu des morts, il y a des disparus, enfin, il y a des gens qu'on n'a jamais retrouvés, qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Et les Chypriotes turcs, on leur a demandé de remonter dans la partie occupée. Ce qui fait que
Il y a eu un déplacement
de population dans les deux sens.
D'accord.
Et donc les Chypriotes turcs ne sont pas forcément ravis d'être dans le nord.
Bah oui, je me doute bien.
Et ce qui se passe maintenant, c'est que le gouvernement turc donc fait venir de plus en plus de colons d'Anatolie. Donc c'est une région de Turquie qui est très pauvre. Ils leur font miroiter une vie meilleure. Bon, je pense qu'elle est peut-être meilleure. Avec le côté agricole. Et donc, pour l'instant, bon, on a eu l'occasion de poser la question à l'ambassadeur, parce qu'on a reçu assez souvent un ambassadeur de Chypre en France, à Truy ou à Saint-Cyr-sur-Loire. Je reviendrai sur le sujet après. Et les colons d'Anatolie représentent à peu près le tiers de la population de l'île entière. Ce qui fait que ce sont des Turcs, des vrais Turcs, qui viennent à Chypre.
Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris toute l'île, finalement? Enfin, ils sont arrêtés à la moitié.
Je pense qu'ils ont. Alors, là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'ils sont arrêtés, puisque c'est de, comme je vous dis, ils ont envahi la partie la plus agricole.
Ils ont eu ce qu'ils voulaient, voilà. Et puis ils sont arrêtés là.
Voilà. Oui, d'accord. Donc, ils auraient peut-être pu aller plus loin. Ça, là, j'avoue, je ne m'avance pas, parce que je ne suis pas suffisamment calé sur l'histoire de Chypre pour vous répondre à ce niveau-là.
Et du coup, cette séparation-là, le fait que les Turcs aient la partie agricole et le reste, d'un point de vue niveau de vie,
alors, que ça change beaucoup de choses. Non, les Chypriotes avaient un niveau de vie et ont toujours un niveau de vie très élevé.
D'accord.
Ils ont un niveau de vie, enfin, les Chypriotes grecs, hein, les Chypriotes turcs, maintenant, dans la partie nord, il y a quand même, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 30% de chômage.
D'accord.
Dans la partie occupée. Alors que dans la partie sud, la partie libre, je dirais, il y avait 4% de chômage, bon, qui est quand même monté à 16% maintenant avec la crise qu'ils ont subie en 2013. Donc le niveau de vie, alors le niveau de vie des Chypriotes, je dirais, est peut-être plus élevé que le niveau de vie moyen en France. Enfin, était.
Et ce niveau de vie plus élevé, même, on va dire, que la partie nord. Il vient de quoi ? Parce que c'est quand même assez étonnant, parce que quand on voit des histoires comme ça, on dit souvent que c'est le peuple entre guillemets opprimé qui est plus beau.
Oui, bah là c'était. Oui, enfin.
Là ce serait plutôt l'inverse.
Oui, parce que l'île est riche. Enfin, l'île était riche.
Ouais.
Donc, et puis il y a beaucoup de. Vous avez beaucoup de secteurs tertiaires. Mmh. Donc,
d'accord.
Donc par exemple, un instituteur à Chypre gagnait beaucoup plus qu'un instituteur grec. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Grecs qui sont partis à Chypre. Pour gagner plus.
D'accord.
Maintenant, les salaires ont quand même été bien amputés, donc c'est vrai que leur niveau de vie a quand même baissé.
Mmh.
Et maintenant, ils sont confrontés, un petit peu comme dans beaucoup de pays européens, ils ont beaucoup de gens des pays de l'Est, roumains, etc., qui viennent à Chypre et qui sont prêts à travailler pour un salaire de misère, mais qui est plus intéressant que le salaire... chez eux.
Mmh.
Donc c'est vrai que Chypre quand même subit la crise de plein fouet. Je dis le chômage quand même est arrivé à 16% et il y a pas mal de licenciements puisque la Cyprus Airways, donc qui était qui appartenait à Chypre au niveau aviation, a fait faillite. Donc il y a à peu près, je crois, enfin pas qu'à Chypre puisqu'il y en avait à Paris, enfin il y en avait un peu dans le monde entier. Ils ont dû licencier quelques mille personnes, quoi, dont 800 à peu près sur Chypre. Donc c'est vrai que là, ils subissent quand même la crise. Bon, nous aussi, on l'a subi, mais et ils étaient habitués à avoir un niveau de vie quand même relativement élevé.
Oui, puis aussi peut-être à avoir toute leur île.
Ben, avoir l'île en grand entier, ben oui. Et puis, ils ont laissé. Alors ce qui se passe, c'est que si leur maison est occupée, donc leur maison qu'ils avaient dans la partie nord, si leur maison est occupée par un chypriote turc, ça se passe relativement bien. Parce que c'est un chypriote.
Il y a une forme de respect.
Voilà. Si c'est occupé par un colon, ils gardent tout, ils ne veulent rien, absolument rien redonner, ni meubles, ni souvenirs, rien du tout. C'est à nous.
Oui, ils considèrent que.
Ils considèrent que c'est à eux.
C'est un dû, quoi. Voilà. Ça a été... Après, bon, c'est vrai que c'est pas forcément les colons qui sont à montrer du doigt, effectivement, par rapport à cette situation, peut-être qu'on leur...
Oui.
Voilà, on doit...
On leur demande de venir,
voilà.
Et puis voilà.
C'est ça. Mais alors, du coup, si un chypriote grec souhaite passer du côté turc, c'est possible ou...
Alors, de 1974 jusqu'à 2003, la ligne, enfin, ils appellent ça la ligne verte, moi j'appelle ça la frontière, était infranchissable.
Ouais.
Il n'y avait aucun checkpoint, il n'y avait aucun moyen de passer de l'autre côté.
Jusqu'à quand, vous disiez ?
2003.
Ah oui, d'accord, donc oui, c'est récent.
Oui, c'est très très récent. Donc,
pendant 40 ans.
Voilà. Donc, eux se refusent à montrer leur passeport, parce que tout étranger qui va là-bas, si on peut passer côté nord, mais on l'a déjà, enfin moi j'ai déjà fait, ils font un passeport.
D'accord.
Les Chypriotes grecs, eux, refusent de montrer leur passeport, donc ils montrent leur carte européenne. Et c'est accepté. Bon, les militaires turcs titillent un petit peu, mais bon, c'est accepté.
Pourquoi est-ce qu'ils refusent de donner leur passeport ?
Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont chez eux. Pourquoi quand vous allez dans un autre pays, vous montrez votre passeport, ce qui est logique, mais c'est leur pays. Donc ils se refusent à montrer un passeport, parce que pour eux, c'est leur pays.
Bah oui, non, oui, ça paraît.
Quand vous montrez un passeport, c'est que vous allez dans un pays étranger. Enfin, pour moi, vous allez dans un pays étranger.
Tout à fait.
Donc là, ils sont chez eux.
Et puis, enfin, même, après, en plus, même pour nous, c'est encore différent. Nous, quand on est maintenant en français, quand on montre un passeport, ça implique qu'on va loin, en plus.
Bah oui.
Enfin, c'est qu'on va dans un pays où on n'a pas vraiment d'accords commerciaux, enfin, on n'a pas, ou en tout cas, parce que c'est pas du tout vrai ce que je viens de dire, mais en tout cas, on a, des choses qui changent, la monnaie, etc., etc., quoi. C'est vrai que ça change, quoi.
Donc, Chypre est, donc, a adhéré à l'Union Européenne le 1er mai 2004.
Et oui.
Et est à la monnaie euro depuis le 1er janvier 2008. Donc, déjà, bon, par contre, la seule chose qu'ils aient gardée des Anglais, c'est la conduite à gauche. Sinon, alors, ce qu'il faut savoir aussi, et il faut surtout insister, c'est que les Turcs ont détruit tout le patrimoine architectural, culturel, religieux dans la partie nord.
Volontairement ?
Volontairement.
D'accord. Donc ils ont rasé la culture, quoi.
Pour vous donner un exemple, la ville avec laquelle on est jumelé, donc puisqu'on est jumelé avec une ville qui est en zone occupée, mais dont les habitants habitent dans la partie sud, je serais tenté de dire la partie libre, puisqu'on parle de zone occupée et de... leur église, alors ils venaient de faire construire une église 6 mois auparavant, c'est une mosquée.
Oui.
Ils avaient une église du 15e siècle qui a été complètement pillée, profanée, il n'y a plus d'icônes, enfin s'il en reste deux, mais en mauvais état. Leur école, ils ont pillé, ils ont pris les fenêtres, les portes, donc leur école est en ruine. Les cimetières ont été rasés, alors soit c'est devenu des parkings, ils ont, c'est vraiment, et c'est volontaire.
Oui, oui, c'est pour marquer psychologiquement le passage, quand même.
Alors que dans la partie sud, bon, il y avait des mosquées aussi, puisqu'il y avait des chypriotes turcs.
Bien sûr.
Les chypriotes grecs ont conservé les mosquées, dans l'état où elles sont. Voilà.
Ils sont restés sur le même principe.
Voilà, exactement.
Eh bien, sur tout ça, on va se mettre une petite pause musicale, hein, afin de faire redescendre un peu le niveau de tension, je trouve. Parce que c'est vrai que bon, on parle de choses, c'est, même si c'est loin, tu vois, c'est quand même, hein, ça fait bizarre de savoir qu'on a ça, finalement, dans l'Europe, quoi. Hein.
C'est ça.
Il faut savoir que c'est le dernier pays qui est divisé en deux, en Europe, hein, je précise.
Tout à fait.
Et Nicosie est la dernière capitale qui soit coupée en deux.
Parce que la capitale est coupée en deux.
La capitale est coupée en deux.
Ouais, c'est le mur de Berlin, c'est
ça. Voilà. Et là, c'est vraiment, à Nicosie, c'est vraiment un mur. La capitale est coupée en deux, et la rue qui longeait, j'allais dire, la partie occupée, a été ouverte, il y a eu un checkpoint, un ou deux d'ailleurs, de mémoire, en 2008 seulement. C'est quand même très
Ouais, non, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Enfin bref. Du coup, on va se mettre un petit morceau musical. Donc, le groupe Holding Sand, et donc c'est le morceau Float. We'll be right back. Alors, de retour sur la rage, après effectivement une petite pause musicale. Je vais aller très très vite, donc je ne refais pas le tour de la table. Nous avons Daniel Blainvouvier qui nous a quittés. Et en fait, j'ai actuellement dans mon téléphone une personne de Chypre, donc qui a subi en fait ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la déportation donc du passage de Chypre Nord à Chypre Sud. Alors, on va faire un test déjà. Bonjour. Pardon, alors on vous entend pas très très bien. Ah, alors ça c'est un problème, vois-tu, c'est mon téléphone. On va passer par un autre téléphone du coup. Mm-hmm. Ça va être plus simple, je pense. Parce que celui-ci, effectivement, a des problèmes.
Je voulais que je la rappelle avec le mien.
C'est ça, oui, je vous en prie. Du coup, de l'autre côté, donc en fait, ce que je vous explique, on a tout simplement une personne en fait qui donc vit à Chypre, hein, qui fait partie en fait des échanges avec.
Oui, il y avait un petit souci.
Avec une faille.
Je te le repasse.
On l'a tout de suite.
Voilà. Allez, bisous.
Alors maintenant, m'entendez-vous?
Oui, maintenant très bien.
Ah.
Alors, je vais vous parler un peu de mes sentiments de cette époque-là, si vous voulez.
Mais c'est très bien, je vous en prie, on vous écoute. Alors, vous êtes en direct.
Oui, je ne pourrai jamais oublier le moment où j'étais chassée de chez moi par l'armée turque. Vous savez, l'âge de 18 ans est un âge très doux, tendre. C'est là où on rêve, on s'imagine sa future de vie. À ce point, je voudrais signaler qu'en tant que pensionnaire, pour 6 ans, dans une école française à Nicosie, ici à la capitale de Chypre, et j'étais absente chez moi, tout au long de mon adolescence. Alors, j'attendais le moment de retourner chez moi après le bac. Mais à ce moment-là, les Turcs ont envahi à Chypre et nous ont obligés de partir de chez nous. Je me souviens toujours de mon quartier, de mes amis, et surtout, vous savez, à Katokokia, mon village, il y avait beaucoup d'orangers. Mon village a été submergé dans les orangers. Et il y avait une odeur des fleurs des orangers qui perçait le nez. Alors, cette odeur-là, il me reste jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ils avaient évité tous les parfums du monde. Ce parfum restera toujours dans mon intérieur. Ça, c'est une chose que je jamais oublierai. Alors, maintenant, en 2004, si vous voulez que je vous dise avec quand les barricades ont été ouvertes, qu'est-ce que j'ai ressenti là, à ce moment-là? C'est bien de continuer?
Alors, excusez-nous, quand vous dites en 2004, c'était par rapport à quel événement?
En 2004, hein, les barricades ont été ouvertes.
Les passages.
De l'autre côté.
D'accord.
Il fallait montrer des passeports. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais moi, de montrer un passeport dans mon propre pays, ce n'est pas d'aller à l'étranger, c'est dans notre propre pays. Mais moi, je dis non. Cet temps-là, j'étais à Paris. Ce jour-là, en 2004, hein, lors des voyages éducatifs avec mes élèves, hein, et vous ne pouvez pas imaginer les sentiments que j'ai ressentis à l'annonce de l'ouverture des barricades. Je ne vais pas les décrire. Je voulais courir et revenir à mon pays et à mon village. Mais je devais montrer mon passeport. Alors là, je disais, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était des moments parce que moi, je croyais qu'il fallait le faire parce que c'était comme un pèlerinage pour moi et mes parents. J'avais mes parents de me dire pourquoi on ne veut pas y aller. Je leur disais, mais il y a des Turcs, c'est le militaire turc là. Alors, à ce moment-là, en 2004, j'ai pris la décision d'y aller. Là, quand on est allé, on a montré des passeports, bien sûr. Je les laisse là, ça, avec les passeports.
Vous avez quand même joué le jeu. Je dis, vous avez quand même finalement montré les passeports.
Des passeports dans le propre pays, hein, dans mon propre pays.
Oui, effectivement.
Alors, c'était des moments durs, très durs, pénibles, émotionnels, pour mes parents et pour moi, bien sûr. Parce que, comme je vous disais, j'avais 18 ans et ils ont passé 39 ans, combien? Alors, jamais, on est allé chez nous. Je me souviens, ma maman, d'avoir la clé de la porte. Quand elle l'a mise, elle ne pouvait pas ouvrir. Parce qu'ils ont changé tout. On est entré, il y avait des Turcs chypriotes chez nous. Hein, et il y avait une ambiance de peur, de sécurité, et de leur côté et de notre côté aussi. Mais on est entré, ils ont ouvert, on est entré, il n'y avait rien. Des meubles, rien de ce que je me souviens. Mais ce qui m'a tristé le plus, était quand j'ai demandé à la femme là, des albums de photos. Elle m'a dit, non, il n'y a rien. Et je dis, comment? Il y avait tant d'albums ici. Moi, je veux une... C'est ça que je disais. Je n'ai aucune photo de cet âge-là.
Parce que quand on vous a forcé à partir, vous n'avez pas pu prendre d'affaires, rien du tout?
Non, non, non. C'était... Il y avait le bombardement et on n'a rien pris avec nous parce qu'on croyait de revenir dans une semaine.
Ah oui.
On nous a dit, écoutez, c'est seulement pour quelques jours. Alors, on est parti comme on était. C'est comporté, on est allé sans rien prendre. Même de l'argent. On avait d'argent de prendre quelque chose, de manger quelque chose, de prendre avec nous. On n'a rien pris. Parce qu'on croyait que dans une semaine, on va revenir. On va retourner. Et ils ont passé maintenant 41 ans.
Oui, c'est ce que je veux dire. C'est une très longue semaine.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui. Une très très longue semaine. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant? Chaque année, pendant le printemps, à peu près le 8 avril, j'amène mes parents à mon village, une fois par an, parce que c'est le moment de l'odeur des fleurs des orangers. Ce qui est resté dans mon intérieur, je l'ai fait une fois par an. Et les parents maintenant, ils se sont grandis, ils ont grandi. Mon papa me dit, pourquoi ne pas rester chez nous maintenant? Je lui explique qu'on ne veut pas y aller, la solution n'est pas arrivée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va et on revient ici à Nicosie. Comme des touristes, hein, je ne sais pas. C'est très dur ça, pour moi.
Mais je me doute.
Pour mes parents, bien sûr.
J'ai du mal à m'imaginer, mais c'est vrai que ça doit vraiment être difficile.
Oui, c'est ça. Alors, je vous dis que je suis pour une solution maintenant. Tant d'années sont passées, les générations partent, hein. La génération de mes parents, mes voisins, tous les... ils sont partis maintenant.
Mm-hmm.
Alors, c'est notre génération maintenant. Maintenant, j'ai 59 ans. Croyez que nos enfants maintenant ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Ils ne comprennent pas.
Ben,
ils se sont acquis ici, à Nicosie. J'ai un fils. Il ne peut pas, il me comprend, mais il me dit, ce n'est pas un village, maman. C'est ton village. Je vais l'amener te voir à ma maison, les champs, les orangers, tout ça. Et il me dit, à un moment, je vais y aller avec vous. Je lui dis maintenant que ton grand-père est avec nous. Il faut y aller. Mais ils ont des difficultés. Ils n'ont pas les sentiments. Ils n'ont pas vécu, hein,
mais oui, et puis,
à notre village.
Et puis, d'une certaine manière...
Ce n'est pas... je suis très fière d'avoir mes amis français. Hein. Surtout Marie-Dominique et tous nos amis français qui sont impulsés à travers des conférences, des expositions, des manifestations associatives avec les jumelages. Ces jumelages avec les villes de Touraine contribue beaucoup à renforcer à la nécessaire solidarité de France avec les justes combats diplomatiques et politiques de la Pacifique République de Chypre pour devenir un jour sa pleine souveraineté. Je les remercie de tout mon cœur parce qu'ils sont toujours là près de nous. Et quand ils sont venus, je ne sais pas si Marie-Dominique vous a raconté, quand on est allé à Katokokia, on est arrivé à l'école élémentaire. C'était mon école élémentaire, on pleurait, on ne peut pas parler, on pleurait tout le temps. Et mon village me manque beaucoup, et mon quartier aussi. Et je ne sais pas s'il y aura une solution maintenant, je ne sais pas, avec ce monsieur Akinji maintenant, je ne sais pas, il est un vrai juste chypriote, hein, vous savez, parce que eux aussi, ils ne veulent pas les Turcs de la Turquie. Et j'ai des amis turcs parce que dans l'école de Serres que j'allais, l'école française ici à Nicosie, il y avait beaucoup de Turcs chypriotes, des amis, hein. On faisait beaucoup de choses ensemble. C'est leur patrie, comme Chypre c'est à moi, ma patrie, c'est pour eux aussi, c'est leur patrie. Alors elle me disait, Onaï, c'est une copine de chypriote. Alors j'attends le moment, elle me disait, c'est Dieu de la justice de partir et de nous laisser seuls de voir, d'avoir la solution de ce problème. Vous savez, les deux parties, les Turcs chypriotes et les Grecs chypriotes, veulent la solution. Bien sûr, il y a des Grecs chypriotes aussi qui ne veulent pas, comme il y a des Turcs chypriotes. Mais je crois que la majorité veut une solution maintenant. Et je l'espère. Je ne sais pas.